Vous écoutez France Culture.
Terre à Terre, le magazine de l'environnement. On dresse ce matin un bilan des questions alimentaires avec Olivier de Scutter, dont le mandat vient tout juste de s'achever. Olivier de Scutter, nous nous rencontrons au moment où vous vous apprêtez à quitter le poste que vous occupez depuis maintenant 6 ans, rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation auprès de l'Organisation des Nations Unies. Nous nous étions rencontrés déjà une première fois à Terre, on avait longuement évoqué ces questions de l'alimentation, mais peut-être aujourd'hui, puisque voici venue l'heure de votre départ, j'aimerais qu'on fasse peut-être que vous nous brossiez un tableau de ces 6 années que vous venez de passer à défendre ces questions de l'alimentation. Vous le soulignez dans le rapport que vous avez écrit en forme de conclusion, en matière de conclusion et de recommandation. Vous êtes arrivé en pleine crise de l'alimentation 2008, flambée des prix des céréales, les manifestations des tortillas, par exemple, au Mexique, et un peu partout dans le monde, des tensions comme on n'en avait encore jamais connues sur les prix alimentaires. 6 ans après, vous dressez un tableau qui est, disons, nuancé, c'est-à-dire si vous reconnaissez un certain nombre de petits points positifs, il n'en reste pas moins que le tableau global est encore largement à compléter et à améliorer. Donc est-ce que vous voulez qu'on revienne d'abord sur votre arrivée ou bien qu'est-ce qui vous paraît très bien ?
Non, je crois que depuis 6 ans, le paysage a fondamentalement changé. C'est-à-dire qu'il y a...
Fondamentalement.
Il y a 3 changements de paradigme majeurs qui ont eu lieu et qui maintenant doivent se traduire en actes sur le terrain. Le premier changement de paradigme, c'est que nous étions jusqu'en 2008 dans la conviction qu'il fallait, pour résoudre le problème de la faim et de la malnutrition dans le monde, augmenter la production dans les régions les plus efficientes, les plus compétitives, les plus productives, et que les régions en déficit alimentaire, par le commerce et par l'aide alimentaire, voient satisfaits leurs besoins. Cette idée était donc que la division internationale du travail entre les régions les plus efficientes dans la production agricole et les autres allait résoudre le problème et que la libéralisation du commerce était donc la solution. Cette idée n'est plus admise aujourd'hui. Je pense que le consensus, c'est qu'il faut aujourd'hui aider les pays, non pas en leur donnant à manger, mais en les aidant à se nourrir eux-mêmes. Et il y a eu un réinvestissement massif dans l'agriculture vivrière pour éviter que ces pays soient pris au piège, au fond, de prix volatiles et de chocs à répétition sur les marchés internationaux. Premier changement. Deuxième changement, c'est qu'on a longtemps détaché les politiques agricoles des questions de nutrition et de santé. Et aujourd'hui, on se rend compte que la focalisation sur des grandes monocultures de blé, de maïs, de soja, de riz, ont conduit à négliger, au fond, l'importance de la diversité dans l'alimentation pour des régimes alimentaires plus adéquats, plus riches en micronutriments, plus équilibrés. Et on est face à des politiques agricoles qui, n'ayant pas tenu compte de ces dimensions, ont encouragé des épidémies de surpoids d'obésité dans le monde entier, liées à une dépendance de plus en plus forte sur les aliments fortement transformés, qui ont une longue durée de vie sur les rayons des supermarchés, mais qui ne sont pas les plus sains. Et puis, troisième changement de paradigme majeur au cours des 6 dernières années, c'est qu'on a compris que l'on ne pouvait plus poursuivre sur la pente de l'agriculture industrielle. Et à 4 niveaux, si vous voulez, les limites écologiques ont été franchies et on est en train de revoir fondamentalement la manière de produire. D'abord, parce que les sols sont largement dégradés dans beaucoup d'endroits. Deuxièmement, parce que le cycle de l'azote et les réserves en phosphate sont aujourd'hui une véritable menace qui pèse sur la possibilité de poursuivre sur une trajectoire de l'industrialisation de l'agriculture. Troisièmement, parce que la consommation d'eau douce par l'agriculture est beaucoup trop importante par rapport à ce que la planète peut supporter. Et quatrièmement, parce que le changement climatique nous appelle à une révision fondamentale de nos manières de produire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait de l'agroécologie mon cheval de bataille en insistant sur le fait qu'il y a des solutions autres que celles de l'agriculture toujours plus industrielle, toujours plus liées aux énergies fossiles et au fond qui nous conduit dans une impasse.
Quand vous dites « on a compris », Olivier de Scutaire, de qui parlez-vous ?
Je veux dire qu'il y a dans la communauté internationale des réalités qui aujourd'hui sont admises et qui étaient sans doute la conviction d'une minorité il y a 6 ans, mais qui aujourd'hui se retrouvent en tête des déclarations internationales. En d'autres mots, il y a eu un véritable réexamen des politiques du passé. On est entré dans le XXIe siècle, mais cela reste au niveau des discours. Et malheureusement, dans la réalité, les investissements qui sont faits dans l'agriculture, entre les mains du secteur privé, beaucoup plus qu'à travers les gouvernements, sont des investissements qui n'ont pas pris en compte ce changement de cap, pourtant bien nécessaire.
Je vous remercie d'avoir souligné vous-même qu'on en restait au niveau des discours, parce que j'allais le dire moi-même de manière peut-être un peu mordante. Donc, on est, dites-vous, au niveau des discours, passé à autre chose. Ça signifie qu'on a compris vraiment largement, sur le plan international, qu'il fallait en finir avec la révolution verte, qu'il fallait en finir avec l'agriculture productiviste industrielle et qu'il fallait redonner une place aux petits paysans et aux méthodes qui seraient davantage tournées vers la main-d'œuvre humaine et moins vers la mécanisation, moins vers les intrants, moins vers la chimie et les technologies.
Je ne sais pas si on l'a compris, mais on l'a dit. Et on le dit à longueur de communiqués au terme des conférences internationales auxquelles j'ai assisté. Il y a donc un nouveau discours autour de l'alimentation qui intègre ces éléments qui ne sont plus seulement productivistes et qui, effectivement, insistent sur le développement rural, sur la santé des sols, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur le soutien aux petits paysans. Le vrai problème, c'est que les gouvernements n'ont pas tous les leviers à leur disposition et que les investissements qui sont faits sont encore très largement le fait d'investisseurs privés qui ne voient pas tellement leur intérêt à travailler avec des petits paysans parce que ça implique des coûts de transaction extrêmement importants, parce que ces petits paysans produisent des volumes plus restreints et pratiquent une agriculture plus diversifiée qui ne leur permet pas de répondre aux exigences en termes de standards, de conformité aux attentes des acheteurs. Et puis, reconnaissons-le aussi, la révolution verte, avec l'insistance qu'elle a mise sur les semences améliorées, sur les pesticides, les engrais azotés, la machinisation de l'agriculture, présente pour les gouvernements un avantage, c'est qu'ils peuvent donner aux paysans des biens privés qui leur permettent, au fond, à la fois de récompenser des amis politiques qui sont les vendeurs de ces intrants et d'acheter la loyauté politique de leur électorat par ces cadeaux qu'on leur fait. Alors que, par exemple, la formation aux pratiques agroécologiques, la diffusion des bonnes pratiques agricoles qui ménagent la santé des sols ne sont pas aussi rentables électoralement et, d'une certaine manière, pour les gouvernements, sont moins intéressants à promouvoir. Et pour le secteur privé, évidemment, ça ne veut pas dire des nouveaux marchés qui se développent. À la limite, ça veut dire plutôt des marchés qui disparaissent et des espoirs de croissance pour les chiffres d'affaires des fournisseurs d'intrants en particulier qui sont déçus.
Alors là, vous parlez beaucoup des gouvernements et vous insistez également dans votre rapport sur les efforts à accomplir à l'échelle nationale, dites-vous. Et en fait, en lisant ce rapport qui est le vôtre et en vous écoutant, je me pose la question des acteurs. Qui sont véritablement aujourd'hui les acteurs ? Vous dites, on est d'accord pour dire, en tout cas, qu'il faut faire tous ces changements. Et c'est vrai, la FAO, par exemple, tient des discours aujourd'hui qui sont très proches de ce que vous dites vous-même et qui étaient pendant très longtemps les discours des organisations paysannes et des réseaux de petits paysans. C'est vrai. Il n'empêche qu'à l'OMC, on ne parle absolument pas d'agriculture. Vous parlez des gouvernements qui prennent en compte le changement climatique et les dégâts de l'agriculture sur le changement climatique, il n'empêche qu'à Copenhague, bon, ça commence à remonter, mais enfin, depuis, il ne s'est rien passé, on a enterré le protocole de Kyoto plus qu'autre chose. Donc, qui, aujourd'hui, sont les acteurs véritablement agissants dans ce tableau ?
Le protocole de Kyoto, pour régler une fois pour toutes son compte à ce protocole, était un échec programmé. À partir du moment où vous imposez des engagements chiffrés en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à des pays industrialisés, mais que vous n'imposez pas les mêmes obligations aux pays en développement et que vous favorisez le commerce entre les deux régions, la solution pour les pays riches est toute simple. Sans changer quoi que ce soit notre mode de vie, nous importons simplement plus de ces pays vers lesquels nous externalisons les industries les plus polluantes. Et la vertu dont l'Europe se targue d'avoir réduit le rythme des émissions de gaz à effet de serre est un trompe-l'œil, parce que naturellement, si on prend en compte l'entièreté des émissions de gaz à effet de serre dont notre consommation est responsable, nous sommes très largement en deçà des objectifs que nous sommes fixés par le protocole de Kyoto. Je ferme cette parenthèse. Je crois effectivement que dans ce paysage international en pleine mutation, il y a effectivement un domaine qui demeure rétif à toute remise en cause du paradigme sur lequel on a opéré pendant 50 ans. Et ce domaine, c'est celui du commerce international. Et je pense que les négociations qui se déroulent là restent focalisées sur une idée qui est celle du XXe siècle, qui n'est plus celle de notre siècle, qui est une idée productiviste d'après laquelle il faudrait récompenser les régions les plus efficientes, les producteurs les plus compétitifs, en leur donnant un accès aussi grand que possible aux marchés mondiaux, pour qu'ils satisfassent les besoins des autres. Et cette spécialisation de plus en plus forte de chaque région, qui entraîne une dépendance de chaque région sur toutes les autres, est en réalité extrêmement périlleuse, parce qu'elle expose toutes les régions à des risques de plus en plus importants liés à cette dépendance qui s'est développée. Malheureusement, au sein de l'OMC, on a encore pour mesure du succès l'augmentation des volumes d'échanges, l'augmentation des exportations par chacun, et les critères du succès ne sont pas ceux du développement rural ou de la réduction de la pauvreté, c'est le critère de l'expansion du commerce international. Je suis en profond désaccord avec cette manière de voir les choses.
D'autant que ça n'est pas seulement une manière de voir les choses, c'est une manière de modeler les choses. La situation a été extrêmement sculptée par ces idées de productivisme, par ces images de pays efficients, etc.
Oui, le paradoxe de notre situation, c'est que 12% à l'échelle mondiale des produits agricoles traversent une frontière internationale. On peut donc dire d'une certaine manière que le commerce international est un petit problème dans le paysage de l'agriculture en général. Mais en réalité, ces 10% déterminent les politiques agricoles des pays du monde entier. C'est pour les cultures d'exportation, c'est pour augmenter son accès à des devises étrangères notamment, que beaucoup de pays ont investi dans l'agriculture d'exportation, dans les cultures de rente, dans le caoutchouc, le tabac, l'arachide, le café, plutôt que dans le sorgho, le manioc, la patate douce. Et ceci en dépit de ce que ces cultures vivrières sont en fait beaucoup plus importantes. Elles n'ont pas été soutenues. Et je veux dire par là que les politiques agricoles sont très largement au service de l'expansion du commerce international, au lieu de servir les autres fins pour lesquelles elles auraient dû être conçues.
Vous donnez là des exemples qui sont dans les pays dits les moins avancés. De fait, la situation aussi a été forgée par ces idées et ces idéaux dans nos pays riches, à tel point qu'on se demande aujourd'hui s'il est encore possible de sortir du modèle qui est le nôtre.
Ce sera extrêmement difficile. Nous héritons d'un modèle de système agroalimentaire forgé par les années 60, en fait. La politique agricole commune a été lancée en 1961. Le commissaire européen à l'agriculture était à l'époque le néerlandais Sico Mansholt, et son slogan était qu'il fallait agrandir les exploitations agricoles, récompenser les agriculteurs capables d'économie d'échelle. Les plus petits agriculteurs devaient simplement disparaître et devaient céder la place aux autres. Et c'est au fond, au cours de 50 ans, une réduction drastique de la population employée dans l'agriculture qui s'est poursuivie, qui s'était déjà entamée au début du XXe siècle. Revenir à des formes d'agriculture plus diversifiées, qui restaure, respecte la santé des sols, qui crée de l'emploi dans l'agriculture au lieu de remplacer, comme vous le disiez tout à l'heure, les hommes et les femmes par des machines, sera extrêmement difficile. Et paradoxalement, je dirais qu'il sera plus difficile d'aboutir à ce changement de cap chez nous, dans un contexte où l'agriculture est fortement industrialisée, que de le faire dans les pays en développement qui, pour une part, ont encore des choix à faire qui ont été faits par nous depuis des années. Pourtant, je pense vraiment qu'on n'aura pas le choix. Le pic pétrolier et les menaces qui pèsent à terme sur notre approvisionnement en énergie fossile nous obligeront, qu'on le veuille ou non, à réviser nos manières de produire qui sont fortement dépendantes des engrais azotés, fortement dépendantes de la machinisation et qui expliquent que le système agroalimentaire soit responsable d'une consommation considérable d'énergie qui ne peut plus durer comme elle l'a été au cours du XXe siècle.
Vous soulignez encore une autre difficulté, Olivier de Schutter, qui est que celle que les consommateurs se sont habitués également à une forme d'alimentation qui est loin d'être celle qui serait la plus durable, la plus partageuse, je dirais, celle qu'on pourrait proposer à l'ensemble des habitants de cette planète.
Oui, je crois deux choses. D'abord, il y a un tabou qu'il faut lever, c'est celui de la consommation durable. Je veux dire par là qu'on a beaucoup mis l'accent depuis des années, depuis 50 ans, sur l'augmentation de la production, sans jamais oser poser les questions de la demande. Et pourtant, je ne pense pas qu'on sortira de l'impasse actuelle sans interroger nos modes de vie, nos modes de consommation, notamment dans le domaine alimentaire, où les changements sont peut-être les plus importants à effectuer. Et puis, deuxièmement, nous avons des modes de vie qui nous ont habitués à une nourriture très rapide et facile à préparer, qui a développé une dépendance sur les aliments transformés au point qu'aujourd'hui on fait des appartements aux États-Unis qui n'ont même plus de cuisine et qui n'ont qu'un four en micro-ondes. Et au fond, c'est lié à ce que les gens ont moins de temps pour choisir leur alimentation, pour la préparer et même pour la consommer autour d'une table de famille. Et donc, ce sera extrêmement difficile de changer ce qui est devenu une partie de notre culture, c'est-à-dire le culte de la rapidité dans la consommation et je dirais de la facilité dans l'alimentation. Bien manger et avoir une consommation durable, ça signifie aussi avoir le temps de s'y consacrer, de s'y intéresser, et ça signifie une véritable recivilisation qui doit s'opérer.
Alors, on a dressé un tableau assez catastrophique de la situation. Maintenant, Olivier de Schutter, on va peut-être en venir aux leviers qui vous semblent exister.
En même temps, ce à quoi on a assisté au cours des 6 dernières années, c'est un mouvement de fond dans l'opinion publique extrêmement important. Le nombre de personnes qui aujourd'hui ne veulent plus être simplement des consommateurs et des électeurs et qui veulent agir en prenant des initiatives pour changer le système alimentaire dont ils ou elles dépendent est en croissance remarquable. Beaucoup d'initiatives sont prises qui vont des potagers urbains aux chaînes courtes, à ce que vous appelez en France les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et l'alimentation est un secteur où de nombreuses innovations sociales ont lieu, à une très petite échelle parfois, à l'échelle du quartier et du réseau d'amis qui constituent ensemble une coopérative d'acheteurs, par exemple. Et pourtant, c'est de là, je crois, que peut venir la véritable transition vers autre chose.
C'est important peut-être de souligner que ça se passe absolument partout.
Ça se passe absolument partout, sous des formes diverses. Ce qu'on a beaucoup plus en Amérique du Nord et qu'on n'a pas encore en Europe, ce sont des conseils de politique alimentaire où l'on délibère entre citoyens consommateurs, producteurs, autorités municipales, de la manière d'aller vers des systèmes alimentaires plus durables. Mais en Europe, les mêmes initiatives se prennent sur le terrain par des voies différentes, peut-être moins institutionnalisées. Et dans les pays du Sud, on a de plus en plus au niveau municipal des initiatives visant à rebâtir des systèmes agroalimentaires locaux, reconnecter les petits producteurs locaux avec, par exemple, les cantines scolaires dans les régions urbaines ou avec les marchés citadins pour favoriser l'écoulement par les petits producteurs locaux de leurs denrées sur ces marchés. On a partout un mouvement de refondation des systèmes agroalimentaires locaux, largement déstructuré par l'extension des chaînes mondiales de production et de commercialisation, et qui, à tout le moins, n'ont pas été soutenus, ces systèmes alimentaires locaux, comme il l'aurait fallu par le passé. On est en train de réinventer, à partir du bas, des systèmes qui ont été largement négligés par le passé.
Qui reste aujourd'hui extrêmement minoritaire, ou bien est-ce que vous avez le sentiment qu'il gagne en importance et qu'il pourrait à terme menacer ce système de la grande distribution et des grandes chaînes qui s'est mis en place ?
On a une croissance qui est extrêmement forte et les grands acteurs de l'agroalimentaire ne peuvent pas ne pas en tirer les conséquences pour ce qui les concerne. Et on voit de plus en plus de grands distributeurs, de grandes firmes de l'agroalimentaire conscients de ce que les attentes des consommateurs ont changé. Il y a encore 20 ans, les attentes des consommateurs étaient d'avoir tout au cours de l'année une très grande diversité de produits à des prix aussi bas que possible. Aujourd'hui, les attentes qui s'expriment sont relatives à la soutenabilité environnementale, à l'équité sociale dans le respect des droits des travailleurs et dans la rémunération équitable du producteur. Les attentes qui s'expriment sont celles aussi d'une proximité des producteurs avec les consommateurs. On développe de plus en plus des chaînes courtes. Et ce sont des messages qui sont aujourd'hui de plus en plus en train de conduire les grands acteurs à s'interroger sur leurs pratiques. Le problème, c'est que beaucoup de ces initiatives locales sont des initiatives dont ces grands acteurs sont en fait écartés. Ils sont d'une certaine manière sans pertinence quand le producteur va directement vendre ses produits sur le marché fermier local. On n'a plus besoin des Danone ou des Carrefour, si vous voulez. Et cela interroge évidemment leur rôle et ça les oblige à une autocritique. Pour ma part, je considère que les deux systèmes doivent et peuvent coexister. Beaucoup d'autres diront qu'en réalité, la révolution alimentaire qui est en marche ne va pas s'arrêter à des initiatives qui viennent en complément du système alimentaire dominant et que progressivement, ce système alimentaire dominant va devoir céder la place. Je pense pour ma part que les deux systèmes peuvent coexister, doivent coexister, parce que je crois que il y a des besoins qui ne pourront pas être satisfaits simplement par ces initiatives qui se mettent aujourd'hui en place. Mais il est sans doute trop tôt pour prononcer un jugement là-dessus.
Vous devez être très seul, Olivier de Schutter, à dire des choses pareilles, parce que si effectivement, du côté de ceux qui sont en train de réinventer ce lien entre production et consommation, on peut espérer aller très loin et rendre totalement obsolète le système précédent. Le système qui est en place aujourd'hui est encore d'une puissance extrême et n'a absolument aucunement l'intention de cohabiter ou de coexister. Que l'on regarde les lois qui sont votées aussi bien sur les semences que sur les productions vivrières, etc., depuis une dizaine d'années, que l'on regarde les opérations commerciales qui visent à récupérer et à se réapproprier toutes ces nouvelles formes d'innovation sociale, que l'on voit les OGM qui exigent d'être implantés partout, même là où il est évident qu'ils nuisent à la production biologique, par exemple, on n'a pas du tout le sentiment que les deux camps que vous venez d'évoquer souhaitent ou puissent cohabiter.
Vous avez tout à fait raison sur le constat et sur, je dirais, l'état d'esprit qui anime ces camps. Il n'est pas exagéré, je pense, de parler d'une véritable bataille de mots et d'un combat d'idées. Mais les gouvernements sont un troisième acteur qu'il faudrait quand même ici mentionner. Leur responsabilité est de favoriser l'émergence de ces initiatives locales, de les soutenir, non pas de les ignorer, même si c'est le moins qu'on puisse espérer, c'est qu'on n'impose pas d'obstacles à ces initiatives locales. Et les gouvernements doivent d'urgence aménager un espace pour que cette inventivité des citoyens, par des innovations sociales qu'ils développent, puisse se déployer. Je crois que ça peut être fait. Je pense que si on prend un exemple comme celui du Brésil, on voit coexister deux agricultures très différentes, satisfaisant des besoins très différents, produisant d'ailleurs des choses différentes pour des marchés différents. Et le gouvernement brésilien a de manière délibérée choisi d'avoir deux ministères servant ces deux mondes de l'agriculture, l'agrobusiness d'une part et l'agriculture familiale de l'autre. Tirons-en les enseignements. Réalisons que les agricultures doivent se décliner au pluriel et que les systèmes alimentaires doivent offrir une gamme de possibilités aux citoyens qui doivent pouvoir satisfaire leurs leur souhait de consommateur par différents canaux. Je crois qu'il n'y a pas pour l'instant d'autre voie que celle de la coexistence.
Elle ressemble un peu à la quadrature du cercle, me semble-t-il. Je vais encore vous lancer un petit caillou, Olivier de Scuter, dans votre chaussure, voir si vous avancez toujours aussi allègrement dans la voie de cette coexistence. Revenons en Europe, par exemple, ou aux États-Unis. Si dans les pays du Sud, au Brésil, entre autres, on peut avoir coexistence entre deux formes d'agriculture, c'est aussi parce qu'on a encore des agriculteurs. En France aujourd'hui, aux États-Unis, en Hollande, dans les pays d'Europe, comment est-ce qu'on va pouvoir, au-delà de cette petite agriculture urbaine et périurbaine, qui est extrêmement importante, hein, je ne suis pas du tout en train d'essayer de la dévaloriser, mais elle ne suffit pas à faire l'alimentation humaine ou animale.
C'est un véritable problème. Nous avons une génération d'agriculteurs qui est âgée aujourd'hui. Le renouvellement des générations est extrêmement difficile à faire. C'est vrai en France comme dans l'ensemble de l'Union européenne et c'est vrai naturellement aux États-Unis. Nous devons rendre le travail d'agriculteur plus désirable, ce qui veut dire d'abord favoriser l'accès à la terre pour les jeunes agriculteurs qui souhaitent se lancer. La spéculation foncière est un obstacle majeur pour les jeunes qui se destinent à cela. Et puis, il faut aussi que ce travail soit valorisant, soit payé à sa juste valeur, que l'on dépende moins de subsides que de sa production et que celle-ci soit rémunérée à son juste prix. Et pour l'instant, malheureusement, les signaux qui sont renvoyés aux jeunes agriculteurs qui souhaitent se lancer sont extrêmement problématiques et décourageants. Je crois que c'est un défi majeur et je pense que nous avons plus que jamais besoin d'une pluralité d'agriculture et de jeunes agriculteurs qui font autre chose avec des moyens qui doivent leur être donnés. Mais je partage votre... non pas votre pessimisme, mais votre lucidité sur la réalité du défi.
Vous disiez tout à l'heure, Olivier de Scuter, que le paradigme avait changé. On a changé de paradigme, on a compris un certain nombre de choses. J'avoue, j'ai du mal à vous suivre sur ce terrain. Voilà, je vous ai lancé un certain nombre d'objections. On pourrait parler des calamités qui s'abattent aujourd'hui en nombre toujours plus grand sur les agriculteurs, et en particulier sur les petits agriculteurs. On pourrait commencer par l'accaparement des terres. Vous avez parlé de l'accès aux terres. Jamais il n'a été plus difficile d'accéder aux terres. Jamais on a autant spolié les paysans de leurs terres. On leur prend des superficies absolument mais vertigineuses.
Absolument. Non, tout à fait. Mon diagnostic, c'est que la réalité des défis qui nous attendent est reconnu de manière de plus en plus large, si vous voulez. À l'exception, je le redis, des négociateurs d'accords commerciaux qui manifestement n'ont pas intégré ces changements paradigmatiques auxquels je faisais allusion, je crois qu'il y a au sein de la communauté scientifique et au sein des gouvernements dans les conférences internationales qui se réunissent à intervalles réguliers, il y a la prise de conscience qu'on doit changer de cap. Mais le changement de cap se fait attendre, effectivement, et une des manifestations de cela, c'est la course pour l'accaparement des ressources, la terre arable, l'eau qui se trouve en dessous des terres qui sont les plus souhaitées. Et on a, à l'échelle mondiale, une spéculation foncière qui résulte de ce que l'on a réalisé depuis quelques années, que la terre était en fait une ressource rare, que la demande de terre va continuer à augmenter en raison de l'extension des villes, des projets d'infrastructures, du développement de l'agriculture et de pâturage qui occupent une place extrêmement importante dans le paysage de l'agriculture en général. Et dans les pays du Sud en particulier, ça se traduit par des millions d'hectares qui sont transférés à des investisseurs qui prétendent développer des terres dont en fait les communautés locales du coup se trouvent privées d'accès. Et dans les pays du Nord, ça se traduit par une augmentation des prix de la terre, de manière telle que si on n'hérite pas de la terre, on a beaucoup de mal à se lancer dans le travail d'agriculture. Et je me rappelle un caricaturiste qui, lors d'une conférence à laquelle j'étais associé, présentait alors au public, comme conclusion de la discussion, un petit tableau où il disait, voilà, le monde dans 2050, c'est deux paysans, c'est Monsanto, et puis un paysan qui était au fond le dernier Mohican, si vous voulez, qui restait sur la planète. Et c'est vrai qu'on est dans une situation où la concentration devient de plus en plus forte et où les petits agriculteurs ont beaucoup de mal à se faire une place.
Et puis il y a ce système de lois que j'évoquais tout à l'heure, des lois qui sont passées à l'échelle nationale, mais qui sont passées également à l'échelle de l'Europe. Et puis il y a aussi les réglementations qui sont celles de l'OMC. Et on a vu que lorsque l'OMC a buté sur des difficultés ou des résistances, et en particulier en ce qui concerne les questions agricoles et alimentaires, eh bien les États ont commencé à se tourner vers des systèmes de traités bilatéraux, multilatéraux, dans lesquels ils sont allés encore plus loin dans ces systèmes de privatisation et d'appropriation de la ressource par un petit nombre et au détriment toujours plus grand de la majorité des paysans et au-delà des paysans, de tous ceux qui n'ont pas les moyens de se nourrir.
Oui, c'est vrai que le système commercial multilatéral, pour critiquable que soient les prémices sur lesquelles il se fonde, est meilleur d'une certaine manière que les traités commerciaux bilatéraux où, au fond, le déséquilibre entre les parties est encore plus notable. Et je dois dire que malheureusement, l'Union européenne n'est pas exempte de reproches à cet égard. Elle propose à ses partenaires des pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique des accords de partenariat économique qui sont en réalité forcés sur ses partenaires sous la menace de se voir privés de préférences qui leur étaient jusqu'à aujourd'hui octroyées en raison de leur statut de pays en développement ou de pays moins avancés. Et malheureusement, ces accords qui leur sont proposés contiennent des clauses qui vont au-delà de ce que le droit de l'OMC impose, notamment en termes de propriété intellectuelle, mais aussi en termes de libéralisation des services et des marchés publics, qui sont les domaines dans lesquels les entreprises européennes sont compétitives et souhaitent, accaparer des marchés.
Avec quelles conséquences pour ces pays ?
Écoutez, ce qu'on est en train de proposer, c'est au fond une accentuation de la division internationale du travail, où les pays pauvres nous fournissent en matières premières, nous permettent au fond d'importer de leurs ressources pour favoriser nos exportations à nous, et où on se réserve la possibilité de nous introduire dans les secteurs des services et de l'industrie qui se développent chez eux peu à peu. Et malheureusement, ces divisions internationales du travail enferment ces pays pauvres dans la production de certaines matières premières agricoles qui ne sont pas, au fond, prometteuses pour leur développement à long terme. Et c'est, à mes yeux, trop tôt pour les obliger à se libéraliser autant que cela leur est proposé aujourd'hui. Je crois que ces pays devraient être encouragés à diversifier leur économie. Au contraire, on a malheureusement l'impression que ces accords visent à les confiner à un rôle dans l'économie mondiale qui est celui de fournisseur de matières premières.
À les confiner de manière même assez brutale, puisque on a entendu parler de destruction de tonnes de semences, par exemple, de milices privées qui sont arrivées dans des villages et qui ont chassé les habitants. Enfin...
En tout cas, ce qui est paradoxal dans la situation actuelle, c'est que ces accords qui leur sont proposés, qui visent à développer le commerce au-delà et à côté de l'OMC par des accords bilatéraux, bien qu'il s'agisse de donner à ces pays un accès à des marchés pour leurs produits agricoles, va en fait encourager les agricultures d'exportation chez eux, ce qui n'est pas, même pour le développement agricole lui-même, je dirais la voie la préférable à emprunter. Qu'est-ce qui s'est passé au fond depuis 25-30 ans ? C'est que ces pays ont été forcés de produire pour nous, pour avoir accès à des devises étrangères, pour rembourser une dette extérieure et pour acheter nos technologies, et qu'ils ont par conséquent investi dans les cultures de rente, les cultures d'exportation, et n'ont pas investi dans les cultures vivrières. Tout le monde reconnaît le caractère fondé de ce diagnostic. Or, en leur donnant, une opportunité d'exporter davantage vers chez nous, en échange d'avantages qu'ils nous reconnaissent à nous, on les confine à ce rôle et on aiguille l'agriculture dans cette agriculture d'exportation qui a déjà fait tant de dégâts, y compris du point de vue agronomique, mais aussi du point de vue économique.
Mais Olivier de Schutter, ce rapport de force, qu'on pourrait aussi appeler loi de la jungle, ne s'applique pas seulement entre nos pays riches et des pays pauvres. Aujourd'hui, on voit que le traité qui est en train d'être négocié entre l'Union européenne et les États-Unis va aussi mettre à mal les filières d'approvisionnement alimentaire, les filières agricoles.
Oui, on organise la concurrence entre les agricultures du monde et le grand danger que je vois, c'est au fond que les normes sanitaires qui correspondent au principe de précaution qui est particulièrement cher à l'opinion publique européenne soient de plus en plus mises en cause comme n'étant pas fondées sur, je dirais, les données de la science et soient mises en danger sous la pression de la liberté des échanges. Je suis extrêmement inquiet de la tournure que prennent ces négociations et je le suis d'autant plus que ces négociations se déroulent dans le plus grand secret, à l'abri du regard de l'opinion publique, sans même que les parlementaires européens qui sont censés, en définitive, par un avis conforme, donner leur assentiment à cet accord qui sera négocié, puissent avoir accès aux détails des négociations. Il est tout de même inouï que ces accords commerciaux qui vont affecter la vie quotidienne de millions de citoyens européens soient négociés entre gouvernements conseillés par des multinationales et à l'abri de toute possibilité pour l'opinion publique d'avoir un droit de regard sur ce qui se joue là. Je suis donc très inquiet et s'il y avait vraiment rien à cacher dans les négociations, alors pourquoi ne pas avancer avec davantage de transparence?
J'espère que vous ne m'en voudrez pas, Olivier de Scutter. J'arrête pas de vous entraîner sur des terrains pas très optimistes, effectivement. Je m'en aperçois. Et on a dressé, vous et moi, un tableau à la fois pas très gai, mais aussi plein d'incohérences, enfin, qui semble partir un peu dans tous les sens de la situation de l'alimentation dans le monde aujourd'hui. Comme si on avait perdu le Nord, véritablement. Or, vous proposez une façon, finalement relativement simple, de retrouver un socle, un fondement à partir duquel reconstruire quelque chose et ne plus être dans ce chaos. Vous dites, c'est très simple, il faut partir de la notion du droit à l'alimentation.
L'argument, si vous voulez, est que c'est à travers une démocratisation de la prise de décision que l'on pourra déverrouiller le système. Aujourd'hui, on a un système agroalimentaire extrêmement verrouillé. Verrouillé d'abord parce que toutes les infrastructures, les technologies qui ont été développées l'ont été pour les grandes firmes de l'agroalimentaire et par elles. Et donc, on n'a pas du tout développé sur le plan des technologies et des infrastructures ce qu'il faudrait pour qu'une agriculture paysanne puisse vraiment prospérer. On a des verrouillages qui tiennent aux économies d'échelle très importantes que les grandes firmes de l'agroalimentaire peuvent réaliser et qui leur donnent sur le marché une force de frappe qui leur permet au fond d'avaler tous leurs concurrents. On a des verrouillages qui sont d'ordre sociopolitique. Ce sont ces mêmes firmes qui très souvent contrôlent la décision politique et qui ont de fait un droit de veto sur la transformation du système. Et puis on a des obstacles quasi culturels qui tiennent à nos modes alimentaires tels qu'ils se sont développés, formatés, tels qu'ils ont été par une offre de produits transformés, et sur laquelle il sera de nouveau très difficile de revenir. Comment débloquer ce système qui a tant de verrous? Eh bien, ma réponse, c'est redonnons la parole aux gens, permettons aux citoyens d'être partie prenante dans la redéfinition de leurs systèmes alimentaires. Et cela commence à l'échelle la plus micro qui soit. Ça commence avec des parents qui demandent à la cantine scolaire où se rendent leurs enfants de s'alimenter bio à partir de producteurs locaux. Ça démarre dans les entreprises où les employés peuvent se mobiliser pour avoir effectivement des menus plus sains qui leur soient proposés. Cela commence à l'échelle du quartier où des habitants peuvent se grouper pour recevoir des paniers des producteurs locaux. Et c'est à partir de là, je crois, que l'on peut imaginer une transformation. Le droit à l'alimentation, c'est, à mes yeux, d'abord cela, c'est davantage de pouvoir de chacun de choisir l'environnement alimentaire dont il dépend et de participer à la redéfinition du système dont il dépend.
Encore faut-il que ce droit soit reconnu, donc qu'on sorte d'un système caritatif à un système et qu'on passe à un système de droit reconnu internationalement.
Le droit à l'alimentation est un droit de l'homme qui a un pédigré tout à fait reconnu depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme où il figure. L'impact qu'il a eu depuis qu'il a été revitalisé en quelque sorte il y a maintenant une quinzaine d'années de cela, c'est qu'il a conduit les gouvernements à passer de politiques agricoles à des politiques alimentaires. Je m'explique. Beaucoup de pays, beaucoup de régions ont des politiques agricoles qui soutiennent la production. Très peu de pays ou de gouvernements ont des politiques alimentaires qui intègrent l'agriculture aux questions de santé et de nutrition, aux questions d'environnement et de santé des sols, aux questions de développement rural, aux questions de protection sociale et de lutte contre la pauvreté. Et ce sont ces politiques alimentaires holistiques, si vous voulez, dans leur approche, qu'il faut à présent développer. Et les pays qui ont pris appui sur le droit à l'alimentation pour définir des stratégies nationales visant à réaliser le droit à l'alimentation sont des pays qui ont intégré toutes ces dimensions en se donnant un plan d'action avec un échéancier très précis pour aller dans la direction d'un système plus soutenable à partir de l'idée que le droit à l'alimentation imposait des obligations aux politiques et que les promesses qui sont faites aux citoyens sont des promesses qui doivent être tenues et qui doivent faire l'objet d'un suivi spécifique avec des indicateurs. Le droit à l'alimentation, c'est cela. Et un nombre...
Donnez-nous un exemple, peut-être, Olivier de Schutter.
Il y a pas mal d'exemples dans les pays d'Amérique latine, quelques exemples qui commencent à émerger en Afrique. L'exemple qui me vient spontanément à l'esprit, c'est celui du Brésil, où on a, depuis 2003, un programme Fome Zéro, Faim Zéro, qui a été extrêmement efficace en termes de réduction de la mortalité infantile liée à la malnutrition. Et ce programme Faim Zéro repose sur une participation citoyenne à la base qui est extrêmement forte, avec une grande tradition de démocratie participative et de budget participatif au Brésil, et repose sur des plans d'action adoptés tous les 5 ans, à l'élaboration desquels la société civile participe à travers un conseil consultatif établi au niveau fédéral, au niveau du Brésil. Ce conseil est composé pour 2/3 d'entre ses membres de membres de la société civile, pour 1/3 de représentants des gouvernements. C'est un conseil qui donne des recommandations au gouvernement qu'ensuite une sorte de task force, un groupe de travail interministériel, met en œuvre dans les politiques publiques qui sont suivies au Brésil. Et cette manière de gouverner par des plans d'action quinquennaux pour réaliser des objectifs qui réalisent le droit à l'alimentation, s'est montré extrêmement efficace et cela va bien au-delà de l'agriculture.
Ça touche... Voilà, c'est ça que j'aimerais vous entendre souligner, en fait. C'est que, de fait, à travers l'agriculture, on touche pratiquement à tous les secteurs de l'existence.
On a voulu que l'agriculture soit au service du développement rural, de la réduction de la pauvreté rurale par un accent mis sur la petite agriculture familiale, au service aussi de la santé publique, par l'insistance mise sur la production d'une grande gamme de produits frais qui seront mis à disposition des populations urbaines, et que, au fond, l'agriculture familiale sur laquelle on a misé, par des effets multiplicateurs qu'on lui reconnaît, puisse avoir un effet dynamisant sur l'ensemble de l'économie brésilienne. Et c'est un exemple remarquable d'une stratégie nationale fondée très explicitement sur le droit à l'alimentation et sur la démocratisation de la décision, qui a montré qu'elle pouvait avoir des effets tout à fait significatifs.
Vous nous avez donné là un exemple qui se passe à l'intérieur d'un pays. De fait, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, tous les pays sont reliés entre eux et sont interdépendants. Et qu'on a beaucoup de mal à dissocier l'économie d'un pays pauvre de cette économie mondialisée, alors qu'il en aurait absolument besoin, effectivement, pour arriver à s'en sortir.
Oui, y a ici deux problèmes, si vous voulez, dans la gouvernance mondiale. Le premier, c'est que nous avons segmenté la gouvernance mondiale de manière telle que le commerce est traité au sein de l'OMC, l'environnement traité au sein du programme des Nations Unies pour l'environnement ou, pour ce qui concerne le changement climatique, par le secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique situé à Bonn. On a des politiques agricoles façonnées par la FAO, des politiques d'aide alimentaire façonnées par le Programme alimentaire mondial. Et malheureusement, la cohérence fait défaut dans ce paysage. C'est la raison pour laquelle les réformes de la gouvernance mondiale en matière de sécurité alimentaire, auxquelles on a assisté au cours des dernières années, ont un rôle extrêmement important à jouer. Je constate malheureusement que le commerce international demeure rétif à s'inscrire dans cette dynamique qui vise à inscrire davantage de cohérence à travers ces différentes politiques sectorielles. Le deuxième problème, celui que vous pointiez dans votre question, c'est celui de l'interdépendance entre le Nord et le Sud. Et ici, soyons très clairs, si l'on veut que les pays du Sud réinvestissent dans l'agriculture vivrière, redonnent à leurs petits paysans des chances d'émerger, rendent l'agriculture désirable pour les jeunes générations, il faut que nous arrêtions de focaliser nos propres politiques agricoles sur l'exportation vers les marchés de ces pays. Ça ne se fera pas d'un seul jour. Ces pays, notamment les 48 pays les plus pauvres, les pays les moins avancés, sont véritablement dans une sorte d'assuétude à des importations, à des prix bas de produits alimentaires qui sont produits par nous, écoulés sur les marchés internationaux à des prix très bas parce que subsidiés par les contribuables des pays de l'OCDE, et qui sont une manière très commode pour les gouvernements du Sud de nourrir leurs populations urbaines en particulier. Et cela les dispense de réinvestir dans l'agriculture locale, mais malheureusement c'est une impasse et c'est en plus une menace qui pèse sur eux, puisque dès que les prix montent sur les marchés internationaux, ils sont littéralement pris au piège. C'est ce qu'on a vu en 2008 et en 2010. Il faut par conséquent que ces pays fassent autre chose, opèrent une transition vers le réinvestissement dans l'agriculture locale vivrière. Et nous devons accompagner cette transformation qui se fera pas en un seul jour, mais qui peut se faire sur les 5 ou 10 années qui viennent, en relocalisant progressivement nos politiques agroalimentaires, en évitant de tout miser sur l'agriculture d'exportation et progressivement en permettant à ces pays de rompre avec l'assuétude à des importations de produits alimentaires à prix bas qui les caractérise encore.
Mais est-ce que ce n'est pas paradoxal, Olivier de Schutter, de prôner cette relocalisation très fine et en même temps d'appeler de vos voeux une meilleure gouvernance mondiale de ces questions ?
Cette gouvernance mondiale doit précisément éviter les effets pervers qui résultent de ce que nos politiques agricoles et commerciales n'ont pas été conçues pour favoriser le développement rural, la réduction de la pauvreté rurale dans les pays du Sud. La gouvernance mondiale est là pour discipliner les États, pour qu'ils soient davantage attentifs aux effets sur l'extérieur des politiques qu'ils conduisent chez eux, ou qu'ils conduisent à travers leur politique d'exportation commerciale. Donc je ne crois pas qu'il y a là une contradiction. Il ne s'agit pas pour moi de faire l'éloge de la gouvernance mondiale dans le but d'augmenter le rôle du commerce international. Je crois qu'au contraire, le commerce international a été survalorisé et qu'il faut rééquilibrer fondamentalement les choses en dynamisant les marchés locaux et régionaux pour donner aux petits producteurs des débouchés qui pour l'instant leur sont refusés, et pour encourager une production qui peut satisfaire les besoins des communautés locales environnantes. Donc je ne vois pas là une contradiction, je vois au contraire la nécessité de discipliner davantage nos actions pour qu'elles soient compatibles avec les objectifs que nous professons, qui est d'aider au développement des pays pauvres.
Et alors ces gouvernants du 21e siècle, dont vous disiez au début de notre entretien qu'ils ont compris et qu'ils sont passés à une autre vision des choses, est-ce que vous pensez que ça, ils l'ont compris aussi, Olivier de Schutter ? Je suis très curieuse de savoir quelle image vous avez de ces gouvernants qui sont désormais si loin, en général, des populations. Et on imagine assez mal ce qui peut se dire dans ces enceintes que vous fréquentez.
Oui, votre question pointe de manière un peu subliminale un vrai problème, un vrai obstacle à la transformation que j'appelle de mes voeux, qui est celui de la reddition des comptes par les gouvernements à l'égard de leur propre population. Nous avons, dans beaucoup de pays du Sud, une incapacité pour les petits paysans de faire entendre leur voix dans les processus de décision politique. Nous avons un biais des gouvernements en faveur des populations urbaines, et je dirais même de la classe moyenne urbanisée qui émerge dans beaucoup de pays. Et ça s'accompagne d'une sorte de... pardonnez-moi l'expression un peu forte, une sorte de mépris pour le monde paysan, la connotation péjorative qui s'attache au mot de paysan, d'ailleurs, dit assez bien, au fond, ce que j'ai à l'esprit en désignant cette mentalité. Ceci doit changer, et je me réjouis que, parmi les évolutions positives auxquelles j'ai pu assister au fil des 5 ou 6 dernières années, c'est une réorganisation du monde des paysans, de mieux en mieux organisée au sein de chaque pays et aussi sur un plan transnational, est capable aujourd'hui de faire entendre leur voix beaucoup mieux qu'auparavant dans le processus de décision politique. On a d'ailleurs des pays comme le Mali ou le Sénégal où les organisations paysannes sont devenues des interlocuteurs officiels des gouvernements, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années et ce qui demeure encore l'exception plutôt que la règle. On va donc dans le bon sens, mais c'est vrai que c'est très lent et c'est vrai que c'est un obstacle majeur à franchir.
Est-ce que peut-être les modèles seraient davantage à chercher du côté des pays du Sud aujourd'hui, puisque chez nous, les organisations paysannes qui sont entendues des gouvernements ne sont pas les mêmes que celles dont vous venez de parler, au Sénégal ou ailleurs?
Oui, le monde agricole est très divisé et il faudrait vraiment parler au pluriel parce que en France, par exemple, les thèses de la Confédération paysanne ne sont pas celles de la FNSEA et c'est bien évidemment des trajectoires différentes que ces organisations envisagent et sur des dossiers précis, on peut pointer des contradictions. Très clairement, je crois que nous devons apprendre de l'expérience de certains pays du Sud l'importance d'une meilleure organisation des paysans. Vous savez, les paysans, c'est des personnes individualistes parce qu'elles sont dispersées sur des espaces parfois très grands. Elles ont donc du mal à se mobiliser ensemble. Elles ont aussi beaucoup de travail, ces personnes, à effectuer. Donc, on peut de temps pour l'investissement dans la politique ou dans le syndicalisme agricole. Et pourtant, c'est tout à fait vital qu'elles deviennent des interlocuteurs respectés du monde politique. Non pas pour devenir un lobby de plus ou pour être encore plus influent comme le sont déjà quelques grosses centrales agricoles, mais pour que la diversité du monde agricole puisse être entendue dans le chef des décideurs politiques et pour que la petite agriculture familiale puisse faire passer le message qu'elle a des services à rendre, qu'elle rend des services en réalité à la société, dont la collectivité dans son ensemble bénéficie, services pour lesquels les petits agriculteurs ne sont pas aujourd'hui récompensés comme il le faudrait.
Cette diversité des petits agriculteurs, cette richesse qui est la leur, vous les soupçonniez quand vous êtes arrivé à ce poste de rapporteur spécial des questions alimentaires, Olivier de Schutter, il y a 6 ans?
Les services que rend l'agriculture paysanne, familiale, en termes d'agro-biodiversité, en termes de préservation des écosystèmes, en termes de développement rural, ne sont pas nouveaux. Mais ce qui est nouveau, c'est que l'on reconnaît le caractère vital de cette contribution. Et c'est, je crois, tout à fait rassurant de voir que dans les discours, une fois de plus, l'aide aux petits paysans, le soutien aux petits paysans commence à être visible et à être proclamé. Je le redis, il ne suffit pas de s'en tenir à ce niveau-là, mais les choses ont changé et je crois vraiment que la bataille des idées a été gagnée, mais on est au milieu du gué. Et maintenant, il faut voir si ce début de transformation des discours et des mentalités va se traduire sur le terrain.
Voilà, c'est terminé pour ce matin. Vous pourrez réécouter cette émission ou la télécharger sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon, mixage, Manuel Couturier, réalisation, Michel-Ange Vinti. Bonne semaine à tous.